C'est le journal de Solène Cressan. Bonjour Solène.
Bonjour. Aura-t-on assez de vaccins en Europe en pleine campagne vaccinale contre le Covid-19? Bruxelles n'est pas très optimiste et craint même des pénuries. En attendant le vaccin, nouvelles restrictions à travers le monde, à commencer par la France avec ce couvre-feu dès 18h depuis hier. À Metz, tout le monde a dû changer ses habitudes et ce n'est pas toujours facile. Deux soldats de la force Barkhane tués hier au Mali, un jeune de 24 ans et pour la première fois une femme, maman d'un petit garçon. Un acquittement surprise en Algérie, celui du frère du président déchu Bouteflika. Et puis une médaille de la Première Guerre mondiale qui refait surface dans la Somme et qui retrouve l'arrière-arrière-petite-fille du poilu à des centaines de kilomètres de là. Quand on vous dit que le Père Noël n'a oublié personne.
Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Andriy Makine pour un nouveau roman, L'ami arménien qui sort chez Grasset.
Et puis à 8h20, Marianne Chaillant, professeure de philosophie. Elle publie In Pop, We Trust aux éditions des Équateurs.
France Inter. Si en France, beaucoup s'impatientent sur la lenteur de la campagne de vaccination, l'Union européenne s'inquiète déjà de pénurie, alors qu'un seul vaccin est autorisé pour l'instant, celui de Pfizer-BioNTech. La commissaire européenne à la santé reconnaît un problème de disponibilité du vaccin. Elle parle d'insuffisance mondiale des capacités de production. Jérémy Audouard.
Dans un entretien accordé à l'agence de presse DPA, la commissaire européenne à la santé explique que ce problème de production est mondial. Stella Kyriakides assure que l'Europe a acheté assez de doses mais qu'on ne parvient pas à en fabriquer assez. « Nous sommes prêts à aider pour accroître les capacités de production », a dit la commissaire, sans donner plus de détails. En tout cas, la société BioNTech se dit prête à faire des efforts. En février, elle espère pouvoir lancer une nouvelle ligne de production en Allemagne, car pour le moment, l'usine Pfizer de Puurs en Belgique tourne à plein régime. Elle doit fournir à elle seule au moins 200 millions de doses à l'Europe et 1 milliard pour le reste du monde. Le chantier est pharaonique. Au total, la Commission européenne a préacheté 2 milliards de doses de 6 vaccins. 5 d'entre eux doivent encore être approuvés. À Bruxelles, Jérémy Audouard, France Inter.
Et dès hier en France, des soignants de plus de 50 ans ont pu commencer à se faire vacciner à Paris. Ce ne devait être qu'à partir de février. La France, où seules quelques centaines de personnes pour l'instant ont reçu l'injection. L'Allemagne a vacciné 188 000 personnes. L'Italie est à plus de 52 000. L'Europe continue aussi de s'inquiéter du variant du Covid découvert au Royaume-Uni. Le Danemark compte près de 90 cas. En France, une dizaine de membres du club de rugby de l'Aviron Bayonnais est contaminé par cette variante.
Et pour contrer une éventuelle flambée de l'épidémie dans certains territoires, il y a donc ce couvre-feu dès 18h depuis hier soir dans 15 départements.
6 millions de Français ont passé donc une longue soirée à la maison hier soir dans les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence ou encore dans une partie du Grand Est. À Metz, Natacha Cadur, une fermeture anticipée avait surtout des allures de répétition générale.
Les derniers passants des fil, il faut bien un verre de vin chaud pour digérer tout cela.
C'est le dernier verre avant la fin et ça fait un petit semblant de marché de Noël.
Il nous reste 40 minutes.
Il nous reste 40 minutes, incroyable. On a le temps d'en reprendre au moins deux.
Dans les rues sombres, l'ambiance est encore un peu au sommeil d'après les fêtes pour Claude, vendeur de chapeaux.
Objectivement, en hiver, quand il fait nuit, les gens rentrent plutôt chez eux. Mais c'est vrai que 18h, ça fait quand même un peu tôt. Proroger au moins d'une demi-heure, 18h30, ça me semblait plus adéquat. Mais bon, malheureusement, je ne suis pas un décideur.
Mais Valérie sait qu'il y aura moins de monde dans son magasin de chaussures la semaine prochaine.
On sait très bien qu'on va perdre nos clients. On va perdre notre clientèle de 17h à 19h parce qu'en fait, de 17 à 18, les gens vont rentrer chez eux au lieu de venir dans les magasins. Et du coup, on perd 2 heures. Après, dans l'absolu, c'est mieux que de fermer complètement les magasins.
17h55, Chantal vient de vendre sa dernière baguette avant de fermer sa boulangerie.
Oui, on voit bien les gens un petit peu beaucoup plus agités, beaucoup plus paniqués. On est un petit peu tous dans la bousculade, mais enfin, je pense que c'est le premier jour. Après, je crois qu'on va s'adapter à toute situation. On a fermé les rideaux, on a fermé nos portes et puis on n'a plus que vous.
Un dernier coup de ciseau sur le fil et Faisal pourra fermer sa boutique de coiffure.
Je suis obligé de finir la coupe, sinon je peux pas te laisser dans cet état-là.
18h03, la police patrouille déjà.
Vite, vite, Natacha Cadur, France Bleu Lorraine. Si la France a décidé d'avancer le couvre-feu à 18h en Thaïlande, plus de nuits festives à Bangkok, bars, restaurants, vente d'alcool, mais aussi salles de gym ou écoles, tout s'arrête pour 2 semaines. Nouveau confinement aussi à Gibraltar et au Zimbabwe.
Au Mali, l'opération Barkhane, de nouveau endeuillée par la mort de 2 militaires français.
Loïc Risser, 24 ans, et Yvonne Huyn, 33 ans, mère de famille et première femme de l'armée française tuée au Sahel. 5 jours seulement après la mort de 3 soldats français, William Delesseux, eux, sont morts dans une attaque à l'engin explosif.
L'engin explosif a atteint le véhicule blindé léger des militaires au cours d'une patrouille de reconnaissance et de renseignement, explique le ministère des Armées. Le drame a eu lieu au nord de Ménaka, c'est à près de 200 km de Gao et à une centaine de kilomètres de la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, une zone dans le centre malien qui est au cœur du conflit mené par la France contre le terrorisme. Les deux militaires qui ont perdu la vie font partie du 2e régiment de hussards de Haguenau en Alsace. Il s'agit d'une sergente, Yvonne Hune, et d'un brigadier, Loïc Risser. Un troisième soldat est blessé durant cette attaque. Ses jours ne sont pas en danger, précise le communiqué de l'Élysée. Emmanuel Macron, qui rend hommage à la mémoire de ses soldats et réaffirme la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme, une nouvelle épreuve pour les militaires de Barkhane. 51 soldats français sont morts au Sahel depuis le début de l'intervention de la France sur place.
William Delesseux. Après la rave party de Lyon au sud de Rennes, 8 personnes ont passé la nuit en garde à vue. Parmi elles, 2 sont soupçonnées d'avoir organisé la rave party. Elle a rassemblé jusqu'à 2500 personnes le soir du Nouvel An. L'Agence régionale de santé de Bretagne demande aux fêtards de se faire tester. Plus de 1600 personnes ont été verbalisées. Un an jour pour jour après la mort de Cédric Chouviat pendant un contrôle de police, une marche blanche en son hommage est prévue à Paris cet après-midi. Dans cette affaire, 3 des 4 policiers présents lors du contrôle de ce chauffeur livreur de 42 ans sont mis en examen pour homicide involontaire. La famille de Cédric Chouviat estime que cette qualification pénale est trop légère. Elle redemande la suspension des policiers.
En Algérie, voilà une décision surprise, celle d'une cour d'appel militaire à l'encontre du frère de l'ancien président Bouteflika.
Elle acquitte Saïd Bouteflika, condamné en première instance à 15 ans de prison pour complot. Le frère et ancien conseiller du président déchu était accusé, avec 3 autres responsables, d'avoir voulu déstabiliser l'armée en 2019, en plein mouvement du Irak. L'armée et la population réclamaient alors la démission du président Bouteflika. Pour Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, cette décision et surtout politique.
On voit bien qu'il s'agit ici moins de justice que de règlement de compte politique et qu'il s'agissait de blanchir des personnalités de premier plan et particulièrement vues qui ont tous joué un rôle éminent dans l'histoire récente de l'Algérie et probablement qui vont être amenés à jouer à nouveau un rôle dans la reconfiguration du paysage politique. Je crois que les Algériens sont finalement assez peu attentifs à ce théâtre d'ombre dont ils pressentent qu'il ne les concerne pas et il a assez peu à voir avec la justice.
Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, auteur de « Géopolitique de l'Algérie » paru chez Bibliomonde.
Allez, cette histoire d'une médaille militaire de la Première Guerre mondiale retrouvée en plein champ.
Un ancien champ de bataille à Quai, dans la Somme, mais c'est en plein labour qu'un jeune agriculteur est tombé sur le pendentif argenté. Gravé dessus, on y lit « Pierre Drevet, Saint-Étienne ». Et l'histoire ne s'arrête pas là. La maman de l'agriculteur a décidé de prendre le pendentif en photo et de le poster sur Facebook. Elle nous raconte.
En fait, nous, on est quand même au milieu de la grande bataille de la Somme en 1916. Donc régulièrement, quand on travaille dans les champs, vous tombez sur des munitions, toutes choses qui datent de la guerre. Et puis là, quand il a vu cette médaille-là, avec le nom, c'était indiqué à l'arrière de la médaille, Saint-Étienne, et puis le numéro du matricule de l'enregistrement du soldat. On est très devoir de mémoire dans le secteur. Et mon fils m'a tout de suite dit, imagine maman, si par chance, il y a la famille, qu'est-ce que ça serait beau que la famille récupère la médaille de ce soldat, quoi. Et puis, à force de partager sur Facebook, sur Saint-Étienne, ça a été des partages et des partages, j'ai vu. Il y a un monsieur qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, ma femme est l'arrière-arrière-petite-fille de ce soldat. Il y a des frissons. Là, franchement, je vous jure, rien qu'à en parler, on est un petit peu ému. Donc, je vais envoyer la médaille la semaine prochaine.
Et voilà, un joli cadeau pour bien commencer 2021. Témoignage recueilli par Yves Renaud. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Sur le Vendée Globe, Charlie Dalin rattrape légèrement son retard sur le leader Yannick Bestaven. Les deux hommes de tête viennent de franchir le Cap Horn, réputé difficile. Mais la course est loin d'être terminée. Il reste 30% du trajet avant l'arrivée au Sable d'Olonne. En Arabie Saoudite, première étape du Dakar après le prologue hier. 600 km entre Jeddah et le sud du pays. Rally raid en plein Covid est critiqué par les associations de défense des droits de l'homme. Elle dénonce un régime sanguinaire qui veut surtout redonner son image.
Et ce rallye Dakar, ça devrait durer jusqu'au 15 janvier. C'était le journal de Solène Cressant.